Chapitre 39. Lorsque Didier et Bobby arrivèrent au garage du père de Tessa Léonie, ils trouvèrent la porte de service ouverte et l'homme en question effondré sur un établi. Ils s'engouffrèrent dans le hangar et Didier se rua vers lui pendant que Bobby la couvrait. Affolée, elle souleva la tête de Léonie pour voir s'il était blessé, puis eut un mouvement de recul en sentant la puanteur de whisky. « Saloperie » s'exclama-t-elle en laissant la tête de Léonie retomber sur sa poitrine. Tout son corps glissa sur la gauche, tomba du tabouret, et il aurait fini par terre si Bobby n'était pas arrivé à temps pour le rattraper. Il l'allongea délicatement sur le sol et le fit rouler sur le côté pour réduire le risque que l'ivrogne ne s'étouffe dans son vomi. « Prends ses clés de voiture !» dit Didier avec dégoût. « On va demander à un patrouilleur de venir s'assurer qu'il rentre chez lui sans accident. » Bobby fouillait déjà les poches de Léonie. Il y trouva un portefeuille, mais pas de clé. Didier aperçut alors le panneau perforé avec sa collection de trousseaux. « Les clés des clients ?» se demanda-t-elle à voix haute. Bobby vint les examiner. « J'ai vu quelques vieux tas de boue à l'arrière. À tous les coups, il les retape pour les revendre. » « Donc si Tessa voulait se procurer rapidement un véhicule, bien pensé. » Didier regarda le père de Tessa, ivre mort, et secoua encore la tête. « Il aurait au moins pu résister, bon sang. »«
Peut-être qu'elle lui avait apporté de la bibine, » dit Bobby en montrant la bouteille vide. Lui-même était alcoolique, il savait ce que c'était.
« Donc c'est clair qu'elle a un véhicule. Ce serait sympa d'avoir une description, mais je ne suis pas persuadée que papa Léonie va nous parler de sitôt. »
« Si ce n'est pas une casse illégale, Léonie doit avoir des papiers pour tout ça. Allons voir, »
dit Bobby en montrant la porte d'un petit bureau. Ils y trouvèrent une table, un vieux meuble de rangement gris, et à la fin du classeur du haut, une chemise en papier craft intitulée « Titre de propriété ». Didier s'en saisit et ils sortirent du garage, laissant l'ivrogne ronflant derrière eux. Ils identifièrent trois voitures parquées derrière un grillage. La chemise contenait les titres de propriété de quatre véhicules. Procédant par élimination, ils établirent donc qu'un pick-up Ford Bleu Marine de 1993 avait disparu. Le document lui donnait 332 000 km.
« Pas de première jeunesse, mais fiable », remarqua Bobby pendant que Didi prenait sa radio pour signaler la disparition de la voiture.
« Plaque d'immatriculation ?» demanda-t-elle.
« Aucune n'en a. »
Didi regarda Bobby. « Va voir dans la rue. » Il comprit à quoi elle pensait et commença à faire le tour du pâté de maison en petite foulée. De fait, à quelques maisons de là, sur le trottoir d'en face, il aperçut une voiture à qui manquaient les deux plaques d'immatriculation. De toute évidence, Tessa les avait chapardées pour en équiper son véhicule.
« Bien pensé, » se dit-il à nouveau, mais bâclé aussi.
Courant contre la montre, elle avait fait main basse sur les premières plaques venues au lieu de perdre du temps à aller en dérober à quelques rues de là, ce qui aurait été plus sûr. Résultat, elle commençait à semer des indices qu'il pourrait exploiter pour la retrouver. L'idée aurait dû faire plaisir à Bobby, mais il était surtout là. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que cela aurait dû être de rentrer chez soi après le travail et de découvrir qu'un homme a pris votre fille en otage.
« Donnez votre arme et tout va bien se passer. »
Et qu'ensuite le même homme abatte votre mari de 3 balles avant de disparaître dans la nature avec la petite. Si la même chose était arrivée à Bobby, s'il avait trouvé quelqu'un en train de braquer un pistolet sur la tempe d'Annabelle, de menacer sa femme et son enfant. Tessa avait dû être à moitié folle de désespoir et de peur. Elle avait dû accepter tout ce qu'il voulait, sans pour autant que la méfiance instinctive du policier ne la quitte. En sachant que sa coopération ne suffirait jamais, que bien sûr il la trahirait à la première occasion. Alors il lui avait fallu à tout prix prendre un coup d'avance, dissimuler la mort de son mari pour gagner du temps, planquer un cadavre avec des dents de lait et une bombe artisanale en guise de macabre plan B. Au début, Shane leur avait dit que Tessa l'avait appelé le dimanche matin en lui demandant de la tabasser. Sauf qu'il savait maintenant que Shane n'était certainement pas du côté de Tessa. Logique. Pour aider une amie, on lui donne 2 ou 3 claques, pas un traumatisme crânien qui la cloue au lit toute une nuit à l'hôpital. L'idée de tabasser Tessa était donc venue de Shane. Comment cela avait-il pu se passer?
On va remonter le cadavre de ton mari du garage pour qu'il décongèle. Ensuite, je te filerai une bonne dérouillée, histoire de rigoler un peu, et tu appelleras la police pour dire que tu as tiré sur ton bon à rien de mari parce qu'il allait te tuer.
Il savait qu'elle serait arrêtée. Shane au moins devait savoir que la version de Tessa ne serait pas très crédible,
surtout avec la disparition de Sophie et la conservation du corps de Brian dans la glace. Ils voulaient qu'elle soit arrêtée. Ils avaient besoin qu'elle soit derrière les barreaux. C'était une histoire d'argent, pensa de nouveau Bobby. 250 000 dollars avaient disparu. Qui les avait volés au syndicat? Shane Lyons? Un plus gros poisson? Quelqu'un qui avait eu l'intelligence de comprendre qu'il faudrait tôt ou tard fournir un suspect avant que l'enquête interne ne se rapproche trop de lui. Quelqu'un qui s'était dit qu'un collègue discrédité, une femme, comme le montraient les caméras de surveillance de la banque, au hasard, Thessaloniki, serait un bouc émissaire idéal. L'addiction avérée de son mari au jeu d'argent en faisait encore une meilleure candidate. Brian était mort parce que sa dépendance au jeu, devenue incontrôlable, en faisait une menace pour tout le monde. Et Tessa avait été livrée sur un plateau aux autorités pour blanchir les autres. Faisons croire qu'elle a volé l'argent, que son mari l'a perdu au jeu et tout sera expliqué. L'enquête sera close et, ni vu ni connu, on pourra partir au soleil avec 250 000 dollars en poche. Brian mort, Tessa derrière les barreaux et Sophie. Bobby n'était pas prêt à penser à cette question. Sophie était un facteur de risque pour ses ravisseurs. Peut-être que dans un premier temps, ils l'avaient gardée en vie au cas où Tessa n'aurait pas respecté leur plan. Mais le temps passant... Tessa avait raison d'être partie sur le sentier de la guerre. Elle avait déjà perdu une journée en préparatif, une journée à l'hôpital et une journée en prison. Le dénouement était proche. Le temps lui était compté. Dans les heures à venir, soit Tessa retrouverait sa fille, soit elle mourrait en essayant. Une policière seule, s'attaquant à des truands qui n'avaient pas hésité à pénétrer par effraction chez un agent de police pour tuer son conjoint. Qui pouvait avoir l'audace de faire ça? Et les moyens? La mafia russe étendait ses immenses tentacules dans la région de Boston. On s'accordait à la trouver 10 fois plus impitoyable que son homologue italienne et elle était rapidement en train de prendre le contrôle de tout ce qui était corruption, trafic de drogue et blanchiment d'argent. Mais subtiliser 250 000 dollars au syndicat de la police n'était pas de leur niveau, se dit Bobby. Les Russes préféraient risquer gros, gagner gros. 250 000 dollars, c'était de l'argent de poche par rapport à leurs affaires habituelles. Et puis voler la police d'État, s'attirer volontairement les foudres d'une puissante institution. Bobby avait le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus personnel dans cette affaire. Des truands n'auraient pas cherché à détourner l'argent d'un syndicat de police. En revanche, ils avaient pu faire pression sur un homme dans la place, qui aurait alors pensé que ce serait la meilleure méthode pour se procurer les fonds dont il avait besoin. Un homme qui aurait eu accès à l'argent, mais qui possédait aussi les informations et la capacité d'anticipation nécessaires pour brouiller les pistes. En un éclair, Bobby comprit. Il fut horrifié, glacé jusqu'au sang. Mais tout se tenait parfaitement. D'un coup de coude, il fracassa la vitre passager de la voiture. Le verre vola en éclats, une sirène retentit. Bobby ne prêta aucune attention à ces bruits. Il ouvrit la boîte à gants et y trouva la carte grise du véhicule, où figurait le numéro d'immatriculation sous lequel circulait maintenant la voiture de Tessa. Puis il retourna en courant vers Didier le garage, fort d'une nouvelle information et d'une idée de leur destination finale.